de santé 88.4. Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé, votre magazine de prévention sur Radio Campus Rennes 88.4. Je me suis rendue au planning familial de Rennes, situé en bas de la place des Lys. J'ai rencontré Brigitte Rocher, la directrice avec qui j'ai parlé des infections sexuellement transmissibles. Pour commencer cette émission, j'ai demandé à Brigitte Rocher pourquoi l'on préférait utiliser le terme IST plutôt que celui de MST ou maladie sexuellement transmissible.
Alors ça fait déjà plusieurs années qu'on emploie le mot IST, donc en fait IST ça veut dire quoi? Ça veut dire infection sexuellement transmissible, autrefois on parlait de maladie. Alors c'est vrai que c'est sans doute pour les personnes qui sont effectivement touchées par une infection sexuellement transmissible, c'est vrai que le terme même infection c'est certainement moins péjoratif que maladie. Maladie, on a quelque chose sur la tête et puis en plus face à certaines infections justement qu'on peut effectivement avoir sur le long terme dans une vie, d'avoir un chapeau maladie toute sa vie, c'est pas facile à porter. Donc je pense qu'on a revu ce terme IST avec certainement l'apparition du sida, parce qu'effectivement on se retrouvait avec des personnes séropositives et séropositives pendant des années. Donc voilà, je pense que c'est plus facile à supporter, on va dire ça comme ça.
Quelles sont les préventions ou les interventions de sensibilisation que vous pouvez mettre en place sur la ville de Rennes?
On travaille au niveau départemental, on n'intervient pas seulement au niveau de Rennes. Alors il faut savoir que le planning familial, il est bien connu pour tout ce qui concerne la planification familiale, sans doute un peu moins connu comme centre de dépistage, mais on est un centre de dépistage ici. Et donc en fait sur le département, on a deux sites, hein, le planning de Saint-Malo qui est situé tout près de la gare, et donc ici où on fait du dépistage en fait tous les jours, c'est-à-dire que toute personne qui souhaite faire un dépistage au planning. Si cette personne est mineure, le dépistage est gratuit. Si cette personne est majeure, on pratique le tiers payant. Et donc, quand on parle de dépistage, on parle de forcément toutes les infections sexuellement transmissibles. Donc ça, tous les jours, on peut répondre à une demande de dépistage. Par ailleurs, bien entendu, on fait de la prévention. Donc la prévention, elle se situe à un niveau primaire, secondaire. Et c'est-à-dire qu'on intervient beaucoup, notamment dans les établissements, dans les espaces jeunes, etc., où on est amené, bien sûr, à faire de l'information sur tout simplement les infections sexuellement transmissibles. On travaille depuis très très longtemps hein, en partenariat avec la ville de Rennes, avec l'hôpital, avec le réseau, etc. Donc ça fait vraiment partie du souci que nous avons de travailler non pas exclusivement dans nos murs, mais de sortir et d'être hors les murs. Et donc selon aussi les périodes, on a pu faire des périodes d'information, des dépistages en dehors de la ville de Rennes, sur Fougères, Vitré, etc. Enfin voilà, et bien entendu autour de Saint-Malo.
Et alors, quelles sont les formations qui existent pour les personnes relais, les personnes par exemple qui veulent mettre en place des outils de prévention, comment ça se passe pour former ces personnes-là ?
Alors en fait, nous, on est un organisme de formation, donc selon les demandes, hein, on peut intervenir. Donc il n'y a pas très longtemps, on est intervenu par exemple à l'IRTS auprès de professionnels qui souhaitaient effectivement une formation sur les IST. C'est un des médecins du planning qui est intervenu. Donc en fait, nous, on répond à la demande par rapport à cela. Et puis après, selon aussi le travail qu'on peut faire avec des partenaires. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une formation auprès des professionnels dans le cadre de la journée sur la contraception. On pourrait tout à fait faire une formation auprès des professionnels dans le cadre de la journée SIDA, par exemple, voyez.
Alors pour parler plus précisément des jeunes, on parle souvent de responsabilisation. Selon vous, comment on responsabilise les jeunes face à leur sexualité?
Déjà, je pense qu'on ne peut être responsabilisé que par l'information. Si on n'est pas bien informé, on ne peut pas se responsabiliser. Donc je pense que déjà la première chose, c'est déjà l'accès aux soins et l'accès à l'information. L'accès à l'information d'abord, hein, parce que quand on est un petit peu ignorant, on ne peut pas prévenir. Donc l'accès à l'information, c'est complètement nécessaire et c'est ce que nous faisons, nous, dans le cadre du travail que nous faisons sur la vie affective asexuelle. C'est assez global hein, comme information. Donc on peut effectivement être amené à parler de contraception, par exemple. Mais derrière la contraception, il y a aussi effectivement les IST. Donc à partir du moment où on aura fait de l'information, je pense qu'après, la responsabilité des jeunes, c'est effectivement de prendre en compte eh bien, l'information qu'on leur transmet. Moi, je crois qu'il faut aussi ne pas leur faire peur. Je pense qu'on travaille effectivement sur la réduction des risques d'une façon générale, la réduction des risques passe effectivement par l'information. Et après, la responsabilité, eh bien, elle est de fait. Hein. On ne peut pas se mettre derrière chaque jeune. Il faut leur laisser la responsabilité. Mais on est aussi un organisme d'éducation populaire, donc il faut faire confiance. Je pense que, alors après voilà, c'est peut-être pas suffisant de dire ça, mais bon, je pense qu'on est quand même dans cet esprit de travailler d'une façon globale, de parler de la santé globale. Et quand on aborde la prévention, c'est aussi d'une façon assez générale. Je pense qu'il ne faut pas faire peur, il faut donner la bonne information. À partir du moment où on est bien informé, ben on peut se prémunir, mais bon, il y aura toujours des dérives, mais ça c'est valable. On parle des infections sexuellement transmissibles, c'est valable par rapport au problème, par exemple, d'alcool. Hein, l'alcool, bon ben voilà, on peut parler d'alcool, des addictions, la prévention d'alcool, etc. Une fois qu'on a dit ça, ça n'empêchera pas les jeunes de boire. Mais après, les dérives, elles sont quelquefois un petit peu embêtantes, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'une prise de risque ?
Il y a plusieurs prises de risque. Hein. Quand on parle de réduction des risques, c'est quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, je parlais tout à l'heure du phénomène alcool. Eh bien, parfois, lorsqu'on est, par exemple, sous l'effet de, que ce soit d'alcool ou d'addiction d'une façon générale, eh bien, on peut effectivement, dans le cadre d'une relation sexuelle, prendre des risques parce qu'on n'est pas conscient, on a une perte de responsabilité quelque part, puisqu'en fait, on aura ou trop bu, ou voilà, etc., etc. Et donc, finalement, on peut avoir effectivement une prise de risque dans sa sexualité, c'est-à-dire ne pas mettre de préservatif ou bien être confronté à des situations de violence. Enfin, la prise de risque, elle est vaste hein, par rapport à, si c'est pour des garçons, ben, on pensera bien sûr au préservatif. Et ben, par exemple, l'oubli de préservatif, pour une jeune fille, on pourra penser effectivement même chose. Hein. Si le garçon n'a pas de préservatif, si on a oublié, bien la jeune fille, les risques qu'elle va avoir, c'est quoi ? Ben, c'est éventuellement une infection sexuellement transmissible, mais ça peut être aussi une grossesse, ça peut être des problématiques de violence, ça peut être une agression sexuelle. La prise de risque, elle est très large.
Enjeu de santé revient après une pause musicale avec Django Django et le titre Default. De retour dans Jeux de santé avec Brigitte Rocher, directrice du planning familial, pour la deuxième partie de l'émission.
Le préservatif est-il le seul moyen de se protéger d'une IST ou est-ce qu'il en existe d'autres ?
Non, c'est pas le seul moyen, parce que le préservatif, parfois, n'est pas suffisant pour lutter contre certaines infections sexuellement transmissibles. C'est pour ça qu'on aborde aussi la vaccination, parce qu'il y a des vaccinations, notamment quand on parle de papillomavirus, par exemple, c'est nécessaire d'être vacciné. On aura beau mettre tous les préservatifs qu'on veut, ça servira à rien du tout. Donc, nous aussi, dans le cadre de nos consultations médicales, on propose, bien entendu, la vaccination hein, pour les jeunes. Mais il y a quand même des préconisations, là aussi. Hein, si on se fait vacciner trop tard, si on on a déjà eu un certain nombre de relations sexuelles, ben, là aussi, ça va servir à rien du tout. Mais bon, en tout cas, ça fait partie de nos missions en tant que ou médecin ou comment conseillère ou psychologue, c'est de transmettre la bonne information pour que les personnes puissent s'en saisir ou, quand je dis personne directement, ou même les parents. C'est-à-dire que quand on fait des informations auprès des parents, c'est aussi leur dire que finalement, eh bien, les vaccinations, ça peut être utile pour lutter contre ci, ça et ça. Hein, voyez. Donc en fait, c'est très large, hein, mais il n'y a pas que le préservatif, effectivement.
Comment se passe le dépistage pour les autres IST que le VIH ?
Alors ça dépend. Il y a différentes formes de dépistage. Donc ça se voit ici en consultation médicale. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, on veut poser un stérilet, nous on fait une recherche de chlamydia, par exemple. Donc ça se fait ici dans le cabinet médical. Il y a différents prélèvements, etc., etc. Donc ça fait partie, si vous voulez. Enfin, nous, on a quand même une responsabilité lorsque on propose des services médicaux en particulier. Donc on fait en sorte que la personne qui demande une contraception, par exemple, puisse avoir une réponse optimum, finalement. Et donc on ne va pas, bien entendu, poser un stérilet à une personne si on ne sait pas où elle en est par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Si on voit, par exemple, qu'il y a des condylomes, si on voit ça, on va bien sûr traiter. Ça fait partie de nos missions, c'est-à-dire quand on est un centre de dépistage, on essaie de faire le maximum pour que la personne qu'on a en face, nous, puisse avoir aussi une réponse favorable à sa demande. Et quand je dis favorable, par rapport à sa santé, bien entendu.
Que faire vis-à-vis de ça ou son partenaire sexuel si l'on est atteint d'une IST ?
Alors, de toute façon, il faut forcément déjà, un, se soigner, et deux, prévenir le partenaire quand c'est possible, parce que quelquefois, le partenaire, on ne sait pas qui c'est. Donc ça, c'est beaucoup plus embêtant, mais lorsqu'on a un contact avec le partenaire, il faut que le partenaire se traite également. Donc, en général, même nous, ce qu'on fait, c'est on fait à la fois un traitement pour la personne qu'on a vue, notre patiente ou nos patients, et ensuite, on fait une ordonnance pour le partenaire, qu'il soit homme ou femme, peu importe, hein, pour qu'il puisse y avoir un traitement partagé. Et ça, c'est fondamental. On se rend compte parfois que ce soit un garçon ou une fille, il y a eu quelquefois même plusieurs partenaires. Hein, donc c'est d'autant plus compliqué.
Le traitement post-exposition, c'est quoi ?
Ça peut être très simple, hein, ça peut être des traitements antibiotiques par exemple, hein, mais ça peut être des traitements plus lourds, parce que ça dépend ce qu'on a. Nous par exemple ici au planning, ça fait quand même très longtemps qu'on existe, on n'a jamais eu, heureusement pour la structure et heureusement pour les personnes qui passent ici, on n'a jamais eu par exemple à prendre en charge une personne atteinte du VIH par exemple. Hein, donc parce que bon, ben voilà, sinon la prise en charge, ben, vous savez bien, elle est à la fois, c'est un traitement sur le très très long terme. Hein. On voit ici des IST qu'on ne voyait plus, notamment des gonocoques, syphilis, etc. Ça, c'était, on n'en voyait plus. Et puis, ça revient. Alors, ce sont des IST à déclaration obligatoire, à traitement forcément obligatoire, donc qu'on prend en charge, hein, ici complètement. Hein.
Les IST sont en nette augmentation et l'utilisation du préservatif semble s'étouffer. Pourquoi, tout d'abord, et comment relancer la prévention et la vigilance, notamment auprès des jeunes ?
On n'a pas réponse à tout, hein, mais je pense qu'il y a eu quand même effectivement lors de la période de pandémie du sida, on peut dire ça comme ça, hein, il y a eu effectivement une forte désinformation plus à donner. Je pense que c'est comme pour tout, il y a toujours un relâchement à un moment donné, donc on oublie qu'effectivement cette maladie, bah, elle existe encore, et c'est sans doute parce qu'en fait il y a moins de mortalité, enfin c'est moins lisible, or les infections sont toujours là, il y a toujours des prises de risque, et donc en fait je vous en parlais tout à l'heure, je pense que c'est peut-être la façon d'aborder aussi cette prévention, c'est de toute façon, c'est toujours dans l'information qu'on peut faire auprès des jeunes, que ce soit dans les établissements ou ailleurs. Mais de toute façon, voilà, je pense que c'est bien d'avoir des journées mondiales qui nous permettent de relancer le sujet. Et c'est important aussi que tout au long de notre activité, eh bien, on l'aborde. C'est vrai que nous, on l'aborde tout le temps, que ce soit dans nos consultations au quotidien ou dans nos actions, dans les actions que nous faisons sur la vie affective et sexuelle. Hein, ça fait partie de nos missions tout de même. Mais après, on a beau faire de l'information, on n'est pas derrière les jeunes, on ne sait pas s'ils mettent des préservatifs, s'ils n'en mettent pas. Et puis quand, par exemple, on a des réticences au niveau des garçons, eh bien, effectivement, je crois qu'il faut mettre un peu à l'aise les filles par rapport au préservatif féminin. C'est vrai que le préservatif féminin, ben, il faut pouvoir aussi, déjà savoir que ça existe bien sûr, savoir l'utiliser, le voir déjà. Donc c'est important de montrer aussi ce que c'est déjà et puis dire que c'est possible.
C'était Enjeu de santé sur le 88.4. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la nutrition. Vous pouvez retrouver toutes les informations ainsi que le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'ARS et la région Bretagne. Parce que risquer moins, c'est s'éclater plus.